Christopher Gisette, porte-parole du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge notamment de l'économie, du commerce extérieur et de la fiscalité, invité de Transparence ce midi, extrait à suivre dès le début de ce journal. Un incendie hier soir à Nouméa dans le quartier de l'Artillerie, c'est l'un des docks de la Ligue calédonienne de Var et de Canoë-Kayak qui est totalement parti en fumée. La situation économique reste extrêmement compliquée. L'ISEE confirme l'effondrement de l'emploi salarié. Entre mars et décembre 2024, 11 600 salariés ont perdu leur emploi dans le seul secteur privé. La dépression tropicale 06F s'évacue dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Un temps plus calme va s'installer avant l'arrivée d'une nouvelle dépression en fin de week-end. Et puis à la fin de ce journal, nous ouvrirons les pages de l'agenda sport du week-end à ne pas manquer, le crunch Angleterre-France pour la deuxième journée du tournoi des 6 nations de rugby. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. L'attractivité de la Nouvelle-Calédonie est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. C'est ce qu'affirme Christopher Gigès, qui était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Jean-François Bonin.
Christopher Gigès, qui est le porte-parole du nouveau gouvernement présidé par Alcide Ponga. Il a aussi la charge de nombreux secteurs, l'économie, le commerce extérieur, la fiscalité, le travail et l'emploi, l'énergie et le numérique, et enfin les sujets liés à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Un secteur dont la mission est de faire revenir les gens sur le territoire ou de les convaincre de rester, et c'est un objectif qui est clairement affiché.
Avec ce qui s'est passé, on voit que l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, elle a pris un coup, mais néanmoins on a encore des atouts extrêmement forts en Nouvelle-Calédonie pour faire rester les gens ici, parce qu'on a un territoire qui dispose d'énormément d'atouts, mais on doit mettre en place un plan d'attractivité à la fois pour les investisseurs, comment on fait revenir des investisseurs en Nouvelle-Calédonie, comment on leur garantit la sécurité de leurs investissements et la rentabilité de leurs investissements, quel type de consommateurs on peut faire revenir en Nouvelle-Calédonie avec des avantages fiscaux. Je pense à des retraités européens qu'on pourrait faire venir en Nouvelle-Calédonie en contrepartie d'un avantage fiscal, faire venir des talents avec des dispositifs particuliers sur des filières, sur la partie médicale. Et donc ça, il fallait l'afficher comme objectif prioritaire du gouvernement parce qu'on a des atouts qui n'ont pas bougé. On est le dernier territoire européen de la zone et français avec des règles de droit qui s'appliquent. On a une position géographique qui n'a pas bougé avec les émeutes, une place géostratégique dans la région et on a des infrastructures qui sont parmi les plus développées de la région. Donc on a tous les atouts pour mettre en place une politique d'attractivité, à nous de la mettre en place.
Parmi les secteurs dont Christopher Gigès a la charge, celui de l'économie, il lui a été demandé un état des lieux et il reconnaît que c'est compliqué.
Elle a été très impactée. On a plus de 700 entreprises qui ont été incendiées. On a eu en tout cumulé plus de 20 000 personnes qui ont touché le chômage partiel. On a environ 100 milliards de dégâts dans le secteur privé. Mais on voit qu'il y a des entreprises qui ont des vrais problèmes de trésorerie. Et j'ai souhaité vraiment, dès la prise de mon mandat, pouvoir rencontrer l'ensemble des représentants des entreprises. Il faut que je continue à faire le tour sur un certain nombre de syndicats professionnels. Tous me disent que la situation est très complexe. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a encore des gens qui continuent à investir. Il y a des gens qui continuent à y croire. Et notre devoir, au-delà de ça, c'est d'être à leur côté dans la reconstruction et d'être à leur côté pour leur dire on va être là pour reconstruire, on va être là pour vous donner un cadre économique qui vous donne de la visibilité, un cadre fiscal qui amène de l'attractivité au niveau local et qui ne punit pas ceux qui créent de la richesse. Et donc vraiment notre job c'est ça, c'est-à-dire que le constat est compliqué mais l'engagement qu'on a, et ça sera dit dans la déclaration de politique générale, c'est d'être aux côtés des entrepreneurs pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie et reconstruire encore mieux notre système économique.
Et pour permettre la reconstruction et la relance de l'économie, Christopher Gigès préconise notamment un choc de simplification du modèle économique calédonien. Il a écrit en ce sens à toutes les directions pour leur demander de faire des propositions.
On a des réglementations qui s'appliquent où l'administration elle-même dit qu'elle ne sert à rien. On demande des pièces qui ne servent à rien. Donc simplifions, faisons un portail unique pour les entreprises et toute la réglementation qui est superflue, qu'on simplifie. On est 270 000, je pense qu'on peut faire beaucoup plus.
Parce que ça fait longtemps qu'on en parle de la simplification, hein, franchement. Ouais, la crise, l'électrochoc du 13 mai va permettre de vraiment le concrétiser.
Il faut que les crises servent à quelque chose. Donc j'espère que ça servira à ça. Vous savez, je parlais tout à l'heure du Covid. J'ai vu qu'on était sorti du Covid quand on a commencé à me dire que les choses étaient plus possibles à faire. Bizarrement, pendant le Covid, les procédures administratives s'étaient simplifiées, ça gênait personne et ça marchait très bien.
Et parmi les mesures de simplification envisagées, celle qui prévoit que le silence de l'administration vaut accord. Christopher Gigès a également été interrogé sur le rendez-vous du week-end, le forum économique qui se tiendra demain à la fois à Bercy et à Nouméa en visioconférence, avec la participation des représentants politiques et des acteurs du monde économique et social. Il souligne que ce forum doit permettre de réaffirmer le soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Lui-même y assistera en visioconférence depuis la CCI et il interviendra sur trois secteurs.
premier des points, c'est la sécurité. Il faut que l'État nous garantisse la sécurité des entreprises. Il faut que l'État réaffirme aux entreprises que celles-ci seront protégées. La deuxième chose, c'est la question des assurances, et notamment de la réassurance. J'ai eu l'occasion cette semaine de voir les principales compagnies qui ont reçu les fonds sur leur compte et qui attendent maintenant les rapports d'expertise qui devraient arriver pour verser. Mais surtout, c'est la question de la réassurance, parce qu'il n'y aura pas de reconstruction sans réassurance des Calédoniens à un prix compétitif. Et là-dessus, on ne va pas tourner en rond 2000 ans. La seule solution, c'est d'avoir un fonds de garantie de l'État qui ne concerne pas que la Nouvelle-Calédonie, qui concerne maintenant l'ensemble des Outre-mer sur le risque émeute. Donc il faut que l'État nous dise qu'il mette en place un fonds, si c'est le fonds terroriste, c'est le fonds qui est dédié à ça, peu importe, mais un fonds qui permette de réassurer en Nouvelle-Calédonie. Le troisième point qui concerne le financement du chômage et du chômage partiel, sur de la durée, il faut qu'on arrête ce qui s'est passé sur la fin de l'année, c'est-à-dire on arrête, on continue, on arrête, on continue. Il n'y a pas pire pour une entreprise que le manque de visibilité et de stabilité. Et donc là, on demandera de la poursuite du chômage partiel jusqu'en juin. Et enfin, on parlera notamment de la partie de l'accompagnement de l'État sur des nouvelles filières en Nouvelle-Calédonie et sur le nouveau modèle économique.
Ce forum économique qui se déroulera demain à partir de 8h heure de Paris, c'est-à-dire à 18h heure de Nouméa. Concernant les aides de l'État, le porte-parole du gouvernement déclare qu'il est normal que la Nouvelle-Calédonie fasse des efforts, mais il n'est pas question pour autant d'augmenter la pression fiscale.
Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas augmenter la pression fiscale sur les entreprises, sur les Calédoniens. Aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui se posent la question, quand ils vont toucher leur indemnité d'assurance, est-ce que je vais rester en Nouvelle-Calédonie et réinvestir, ou est-ce que je vais capter cette manne et peut-être partir ailleurs? Si on leur dit on va augmenter les impôts, je connais la réponse qu'ils vont avoir. Donc très clairement, faisons un système fiscal attractif, compétitif, qui permet d'accompagner la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, et que les efforts que nous menons agissent sur les dépenses publiques et les dépenses des différentes collectivités. Là, dépenses santé sociale également. Et c'est sur ça que la Nouvelle-Calédonie peut faire des efforts, sur baisser son train de vie en faisant des fusions qui ont été identifiées sur un certain nombre d'organismes. Il y a des organismes qui ne servent plus à rien, il y a des aides qu'on ne peut plus faire. Et donc agissons sur les dépenses publiques, mais surtout préservons les Calédoniens de l'augmentation de la pression fiscale.
Et comme membre du gouvernement en charge de la fiscalité, Christopher Gigès s'engage à ne proposer aucune augmentation d'impôts. Il a été aussi interrogé sur le prêt de 120 milliards de francs accordé à la Nouvelle-Calédonie, un prêt qui est désormais validé après l'adoption du budget de l'État.
C'est une très très bonne nouvelle parce qu'on l'avait obtenu à l'époque quand on avait été à Paris et 15 jours plus tard, il y avait la motion de censure et tout était remis en cause. Donc là, que ces 120 milliards soient actés, ça nous donne de la visibilité pour mettre en place le différent financement des collectivités et que les collectivités continuent à fonctionner, de permettre aux régimes sociaux de continuer à fonctionner et de mettre en place différentes mesures en lien avec la relance économique et la reconstruction économique. Et surtout, ça nous donne de la stabilité et de la visibilité.
L'accompagnement de l'État est vital, déclare Christopher Gigès, qui précise aussi que l'arbitrage final sur la troisième tranche des 9 milliards aura lieu lors du forum économique qui se déroule demain.
Et le magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il est aussi disponible, je vous le rappelle, en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Et à la veille du forum économique qui se déroulera donc demain, Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, demande dans un communiqué et dans le cadre de la reconstruction du territoire à ce que l'État garantisse les emprunts des communes comme il le fait pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Pascal Vittori indique dans ce communiqué que cette garantie par l'État des emprunts à l'investissement des communes permettrait de sauver entre 2000 et 3000 emplois menacés dans le secteur du BTP. Le président de l'AFM qui indique que les communes sont les collectivités les plus à même de participer au redémarrage de l'économie par l'investissement public. Les différentes délégations des groupes politiques qui sont à Paris poursuivent leurs discussions bilatérales avec le ministre des Outre-mer. Mardi, ce sont les délégations loyalistes et UC FLNKS qui ont eu un entretien bilatéral avec le ministre des Outre-mer. Hier soir, pour nous, c'est la délégation du Rassemblement, composée d'Alcide Ponga, de Virginie Ruffneck et de Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, qui était reçu rue Oudinot. Ils ont également eu un entretien avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Un enchaînement des réunions qui a surpris l'ensemble des délégations présentes à Paris. Le président du Rassemblement et président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est satisfait de cette méthode, mais Alcide Ponga estime que, pour qu'elle soit efficace, il faut que tout le monde joue le jeu.
Je pense qu'elle est déjà différente dans la personnalité du ministre de l'Outre-mer, qui est un ministre d'État, qui est un ancien Premier ministre. Donc rien que ça, déjà, ça fait une différence. Après, vous avez la méthode du ministre, mais vous avez aussi les positions, et puis je vais peut-être même dire les comportements de nous, les élus responsables calédoniens. De notre côté, côté droit de l'échiquier, on est déjà prêt à se mettre tout le monde autour de la table pour discuter, ce qui n'est pas forcément le cas en face. Donc le ministre peut avoir une méthode, mais je pense qu'à lui tout seul, il ne peut pas faire à ce que ça marche ou pas. Il faut que tout le monde joue le jeu. Et c'est un peu ce que j'ai dit ce matin à la réunion avec les deux présidents de chambre.
Et la nuit dernière pour nous, la délégation de l'UNI a été également reçue rue Oudinot, mais elle n'a pas souhaité faire de déclaration à l'issue de cette bilatérale. Au chapitre des faits divers, les locaux de la Ligue de Va et de Canoë-Kayak, victimes d'un incendie la nuit dernière. Un dock d'environ 150 mètres carrés, totalement parti en fumée. Les pompiers sont intervenus sur place peu après 23 heures. 5 véhicules et 17 soldats du feu engagés. Mais le bâtiment était déjà totalement embrasé, Léana Colombo.
Oui, les dégâts sont considérables pour la Ligue. 3 bateaux de sécurité ainsi que 18 Va qui servaient aux compétitions de vitesse ont été réduits en cendres, sans compter le petit matériel. Ce matin, la police scientifique s'est rendue sur place. L'origine du feu est encore inconnue, mais des exactions ont été signalées dans la soirée dans le quartier de l'Artillerie. Selon nos informations, un pêcheur a été passé à tabac par un groupe d'individus hostiles. Alors forcément, la piste criminelle est dans toutes les têtes. Richard Drouet, le président de la Ligue de Va et de Canoë-Kayak, s'est rendu sur place avec ses équipes et c'est le même sentiment qui prédomine.
Le découragement, parce que moi, ça faisait 25 ans que j'étais à la tête de la Ligue, 25 ans où on a remis en état la Ligue, où à l'époque, la mairie nous a mis à disposition un terrain, où à l'époque, Jacques Lafleur avait mis, la main à la poche pour nous construire les bâtiments. Et donc, ça fait mal au cœur, parce qu'il y a énormément de travail qu'on voit partir en fumée en l'espace d'une nuit, quoi. Heureusement que sur les deux bâtiments, il y en a un qui est resté en l'état, mais bon... On a peur que les gens reviennent cette nuit pour foutre le feu ailleurs. On a eu de la chance que le sinistre a été signalé immédiatement par des gens qui habitaient aux alentours, qui ont appelé les pompiers, qui sont intervenus très vite. Mais maintenant, les voyous qui traînent, il y en a un peu partout dans tous les quartiers de Nouméa. Et on ne sera jamais à l'abri d'une récidive.
Les 3 bateaux de sécurité ont été détruits, ce qui rend impossible l'organisation de compétitions sans l'aide des clubs et des différentes institutions. C'est même la saison qui est menacée.
La saison, elle est compromise. Oui. Si on n'a pas d'aide de la province, si on n'a pas d'aide du gouvernement, si on n'a pas d'aide du CTOS, je ne sais pas comment on va pouvoir remonter ça. Honnêtement, je ne sais pas. Surtout, on avait des compétitions là, qui vont démarrer fin du mois. Je ne vois pas comment on va pouvoir redémarrer. Il va falloir faire appel maintenant aux bateaux de sécurité des clubs, s'ils veulent bien. Pour moi, c'est la mort assurée. Malheureusement, je ne vois pas comment on peut redémarrer de manière pérenne.
L'avenir de la Ligue de Va et de Canoë-Kayak sera abordé demain lors de son Assemblée Générale au CTOS.
Au chapitre des faits divers, encore un cambriolage la nuit dernière dans les bureaux situés à l'aéroport de Tallinn, à Marais. Des dégradations ont également été signalées. Une enquête est en cours. Par ailleurs, quelques branchages et de la terre ont été installés dans le col de la pirogue vers 2h du matin. Les gendarmes sont très rapidement intervenus et ont pu dégager la route. Et puis, des personnes se sont inquiétées d'entendre des alarmes en fin de matinée à Timbéamol. Rien de grave, ces alarmes se sont déclenchées de manière intempestive.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Faut-il intensifier le dispositif de participation citoyenne dans les communes de l'agglomération? Si vous pensez qu'il faut l'intensifier, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'au-delà de la situation météo actuelle, les difficultés et la désorganisation du transport aérien et maritime dans les îles sont dues à une mauvaise gestion. Ils sont 32% à penser que c'est une conséquence des émeutes de mai. Dans l'actualité également, l'ancien maire de Dimbéa, Bernard Maran, est décédé hier soir. Élu maire en 1983, il a occupé le fauteuil de maire sans discontinuer pendant 25 ans jusqu'en 2008 avant d'être battu par Georges Naturel. Dans un communiqué, il lui rend hommage en soulignant que Bernard Maran a incontestablement contribué à développer la ville de Dimbéa. Sur le plan politique, Bernard Maran avait commencé sa carrière au RPCR qu'il a quitté pour rejoindre l'Avenir Ensemble. Il a ensuite été membre fondateur de Calédonie Ensemble. Bernard Maran s'est éteint à l'âge de 83 ans. Dans un communiqué, le maire de Dimbéa, Johan Lecourieux, et son conseil municipal expriment leur profonde émotion à sa disparition et adressent ses condoléances à sa famille et à ses proches. La date et l'heure des obsèques n'a pas été communiquée. Il est 18h02, on va marquer une première pause dans ce journal.
Vous croyez que ce n'est que dans les contes de fées que les anciennes voitures se changent en Mini ? Vous avez tort. La preuve, jusqu'au 28 février, c'est les jours Very Mini chez Prestige Motors. Et pendant les jours Very Mini, pour l'achat de la Mini de vos rêves, Mini reprend votre ancien véhicule au prix Argus plus 400 000 francs. Une reprise au prix Argus plus 400 000 francs ? Non, non, ce n'est pas un conte de fées.
Alors, quelle Mini allez-vous choisir ? La Mini 3 portes ? La Mini 5 portes ? La Mini cabriolet ? Ou la Mini Countryman hybride rechargeable ?
Et oui, c'est un grand jour pour s'offrir une Mini. Profitez-en dès aujourd'hui chez Prestige Motors au 6e kilomètre.
Offre valable jusqu'au 28 février 2025 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Démonté dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
Le marché de mamie jouera les cupidons en avance ce dimanche 9 février de 8h à midi lors du marché Place de la Mairie à Farino. Venez partager un moment convivial et découvrir des produits locaux et de terroir faits et préparés avec amour. Fruits et légumes de saison, les crabes de retour. Artisanat local fait main dans un tourneur sur bois avec démonstration. Charcuterie, miel, vanille, rosier et plantes magnifiques avec des prix très abordables et bien d'autres produits. En couple, en famille ou entre amis, le marché de mamie vous attend. Café et restauration sur place, c'est à Farino ce dimanche.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Soir, Lionel Sabot.
Et on fait le point sur la météo du week-end. La dépression tropicale faible TD06F s'éloigne du territoire. Les vigilances jaunes, fortes pluies, orages et vents violents devraient être levées demain, mais le ciel ne s'éclaircira pas pour autant, Charlotte Coulson.
19 communes sont toujours placées sous vigilance jaune aujourd'hui. Après un renforcement des vents ce matin entre 20 et 25 nœuds et des rafales allant jusqu'à 40 nœuds, le temps s'est amélioré cet après-midi. La dépression continue de s'éloigner du territoire et les vents faiblissent, comme l'explique Stéphane Lacroix, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
La dépression tropicale faible TD06F est en train de s'évacuer rapidement au sud-est de l'île des Pins. On retrouve des valeurs de vent plus raisonnables avec un vent de secteur sud qui affaiblit entre 15 et 20 nœuds, même voire 10 à 15 nœuds actuellement sur la région de Nouméa. On garde encore des vents un petit peu plus forts sur marée, des vents de nord-ouest de 15 à 20 nœuds et temporairement sous averse un renforcement de 20 à 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Mais en soirée, le vent va faiblir sur marée et retrouver un vent de secteur sud entre 15 et 20 nœuds. On est sur la fin là, mais malheureusement le soleil va pas revenir pour autant. Pour la soirée et demain, les nuages vont rester prédominants avec des averses éparses qui vont remonter principalement sur la façade ouest, l'île des Pins et les Loyautés.
Météo France NC qui dresse le bilan des cumuls des précipitations et rafales devant mesurer ces dernières 48 heures. La côte est, l'extrême sud de la Grande Terre et les îles Loyauté ont majoritairement été touchés par les pluies, avec des cumuls compris entre 51 mm à Puebo et 168 mm à Winé, entre Yate et Itio. Les rafales n'ont quant à elles pas dépassé les 72 km/h, valeur enregistrée ce vendredi à l'aérodrome de Wanaham à Lifou. Le plus gros des pluies associées à cette dépression est donc derrière nous. Les vigilances jaunes, fortes pluies, orages et vents violents devraient être levées demain. Mais attention, le mauvais temps reviendra dimanche matin avec l'arrivée possible d'une nouvelle dépression sur la pointe nord.
La situation économique reste extrêmement compliquée dans le suivi mensuel des principaux indicateurs économiques menés par l'ISEE. Les chiffres de la situation au 21 janvier parlent d'eux-mêmes, Jean-François Bodin.
Ces chiffres confirment d'abord l'effondrement de l'emploi salarié. Entre le 31 mars et le 31 décembre 2024, 11 600 salariés ont perdu leur emploi dans le seul secteur privé. L'ISEE est en train de mener un travail similaire pour le secteur public et l'auto-emploi qui devrait donc encore alourdir la situation. Parmi les 11 600 personnes qui ont perdu leur emploi, 6 140, c'est-à-dire plus de la moitié, étaient indemnisés au titre du chômage total en décembre. Toujours en décembre, un peu moins de 1000 entreprises ont fait des demandes d'accès au dispositif de chômage partiel exaction pour 13 470 de leurs salariés. Évidemment, l'incertitude qui pèse sur le financement de ces dispositifs assombrit les perspectives de ce début d'année 2025, souligne l'ISEE, surtout que les créations d'entreprises, qui sont à leur plus bas niveau depuis 30 ans, ne permettent pas d'espérer la création de nouveaux emplois pour compenser tous ceux qui ont été détruits en 2024. Sur le seul deuxième trimestre 2024, il y a d'ailleurs eu, sans surprise, deux fois plus de fermetures d'entreprises que de créations. Une situation qui entraîne aussi une baisse de consommation et une dégradation de la solvabilité des ménages. Selon les données de l'IOM, les paiements et retraits par carte bancaire sont à un niveau inférieur à celui de 2023.
Actualité économique encore, et dans le Nord, les pêcheurs professionnels tirent la sonnette d'alarme et se posent une question. Comment continuer d'exister sans subvention de la province Nord? En effet, aucune subvention ne sera versée à la Fédération des pêcheurs professionnels du Nord, qui compte 60 membres. Une assemblée générale s'est donc tenue hier à Conné pour tenter de trouver des alternatives à cette aide de la province Nord. Les précisions de Christophe Pintonnet, coordinateur de la Fédération des pêcheurs professionnels du Nord.
Lors de l'Assemblée générale, c'est valider les comptes et le bilan moral. Et en même temps, il y avait une question qui était importante, c'était l'avenir de la FPPN pour 2025. Vu que les collectivités ne peuvent plus nous financer pour l'instant et que nous, on survivait avec un financement à 100% de la province Nord, donc c'était de savoir que devenait la FPPN. Au niveau des aides, rien n'a été proposé pour continuer. Et au niveau des décisions, c'est mitigé. Il y a des pêcheurs qui disent qui ont pris la décision et qui ont voté pour un arrêt de la structure vu qu'il n'y a pas de financement et qu'il n'y aura personne qui pourra les représenter et travailler pour eux. Et d'autres qui veulent essayer d'élire un nouveau bureau et de garder un nouveau bureau parce que comme le bureau est démissionnaire, donc on attend de voir par rapport aux rencontres qu'on va faire ailleurs.
Et les pêcheurs du Nord espèrent avoir le soutien des institutions pour la poursuite de leur activité. Dans l'actualité militaire, cette cérémonie ce matin sur la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein de la Tontouta, cérémonie de présentation au drapeau pour 13 jeunes qui viennent de terminer la formation militaire initiale des réservistes opérationnels. La présentation de ces jeunes au drapeau de la base aérienne est un acte symbolique de passage puisque ces jeunes sont désormais des aviateurs engagés dans la réserve. Le colonel Alban Georges-Grandpierre est le commandant de la BA 186, lieutenant Paul Klein.
Ces jeunes vont pouvoir venir faire une vingtaine de jours de réserve, donc ils porteront la tenue. Ce seront des militaires au même titre que les militaires d'active quand ils mettront le pied sur la base aérienne. Et on va voir avec eux, on a eu des entretiens individuels où ils nous ont dit ce qu'ils aimeraient faire. On va regarder quelles sont leurs études et leur proposer quelque chose qui les intéresse et qui également vient renforcer les personnels d'active. Ces jeunes vont venir alimenter nos rangs. Et ça renforce également le lien qu'il peut y avoir entre les armées, la jeunesse et notamment Nouvelle-Calédonie.
Et ce sont donc 13 jeunes, 7 filles, 6 garçons qui ont suivi cette formation durant 15 jours. Formation qui a fait officiellement de ces jeunes des réservistes opérationnels de l'armée de l'air et de l'espace. Parmi ces jeunes, Rayana qui a suivi cette formation dans un but bien précis.
J'avais commencé avec la préparation militaire. Puisque ça a su mes projets professionnels, je me suis dit que j'allais tenter la formation de réserviste pour pouvoir avoir un pied dedans, histoire de voir comment ça se passe, etc. La première semaine, elle était assez intense, on a bien souffert. Mais la deuxième semaine, c'était un peu plus théorique, donc ça s'est bien passé. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'était trop bien. Plus tard, je voudrais m'engager. Je ne sais pas encore dans quel corps d'armée, mais je sais que je voudrais m'engager.
Et durant toute la durée de cette formation initiale, ce sont des réservistes qui ont encadré les 13 stagiaires. Écoutez le lieutenant Aurélien, chef de l'escadron de réserve de la base aérienne de la Tontouta.
Oui, il y a une fierté de voir ces jeunes motivés avec une envie de servir. Et en même temps, on peut constater avec les plus anciens réservistes qui ont participé à remettre leurs insignes, eux qui ont fait leur FMIR il y a 2 ans. On voit l'évolution et c'est très satisfaisant.
Oui, j'ajoute toujours à propos d'immersion de la jeunesse au sein de l'armée de l'air et de l'espace que les inscriptions sont ouvertes pour intégrer l'escadrille Air Jeunesse 2025. Des inscriptions qui sont possibles jusqu'au 21 février au CIRFA qui se situe à la caserne Galipas-Bosque. Et puis le RSMA lance une nouvelle formation pour accompagner la jeunesse calédonienne. Durant 6 mois, les jeunes entre 13 et 25 ans pourront acquérir des bases de l'entrepreneuriat grâce à une formation intitulée Création et reprise activité. En parallèle de cet apprentissage, une formation militaire sera dispensée aux 12 Calédoniens qui seront sélectionnés. Les recrutements se dérouleront du 11 au 13 février à Koumac, du 18 au fin février à Nouméa. Pour un début de formation le 5 mai, les jeunes intéressés peuvent se rendre à la maison du SMA à Nouméa ou RSMA à Koumac. Ce week-end, l'actualité festive sera limitée en raison des mauvaises conditions météorologiques sur le territoire. On notera toutefois de nombreux marchés et vide-greniers organisés à l'approche de la rentrée, Léana Colombo.
Et oui, demain de 8h à midi sur la baie des Citrons, l'association Les Sans Voix sera sur le deck du MV Lounge pour son premier vide-grenier de l'année. La totalité des ventes servira au fonctionnement de l'association qui vient en aide aux animaux du territoire. À Nouméa toujours, la ressourcerie proposera demain son marché de la rentrée de 8h30 à 12h30. Toutes les affaires seront à 50 francs, donc n'hésitez pas. Et ce dimanche, de 8h à midi, le marché de Mamie joue les Cupidons à Farino. À retrouver sur place des produits locaux, de l'artisanat avec la présence d'un tourneur sur bois et des plantes.
Et puis Léana, les enfants pourront également s'essayer à l'équitation. Ce sera demain à l'hippodrome Henri Millard grâce à l'Étrier Club.
Effectivement, l'occasion de découvrir les activités du club avant la rentrée scolaire et de rencontrer les poneys. Des baptêmes seront d'ailleurs proposés à cette occasion. Des démonstrations seront également de la partie de 10h à 15h. Et notez que l'entrée est gratuite.
Il est 18h12, on marque une dernière pause dans ce journal.
Cette Saint-Valentin, offrez plus qu'un cadeau, offrez une émotion. La Cabosse d'Or vous propose des chocolats artisanaux fendants et raffinés, parfaits pour dire je t'aime. Faites fondre son cœur avec le plaisir du chocolat. Rendez-vous, 31 route du Vélodrome, téléphone 26 39 38.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Et sur Radio Rythme Bleu, vous le savez, il n'y a pas de jour sans jeu. C'est à 14h cet après-midi qu'a été réalisé le tirage au sort de notre jeu Chance. Et c'est Hervé de Païta qui est le gagnant d'un très beau cadeau. Nous lui avons appris la bonne nouvelle en début d'après-midi.
Allô.
Lionel Sabot de Radio Rythme Bleu à l'appareil. Vous avez joué à un jeu récemment sur RRB ?
Oui.
Je vous appelais en fait pour vous dire que vous êtes le vainqueur ce mois-ci.
Oh, bah c'est génial.
Est-ce que vous savez ce que vous avez gagné ?
Un bon d'achat, non ?
C'est bien mieux que ça. Vous avez gagné un séjour à l'hôtel de Poé.
Ah, ça c'est top.
Vous avez gagné aussi un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM.
Oh, bah, excellent.
Vous savez avec qui vous allez partir déjà ?
Avec mon épouse. Ah, c'est génial, super, merci beaucoup, beaucoup.
Et bravo à Hervé de Païta. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale. Et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé, mais aussi le cœur de veau. Toutes les actus sont disponibles sur les pages Facebook. Et puis rendez-vous demain à la mi-journée pour le coup d'envoi d'un nouveau jeu Chance avec encore un très beau cadeau à vous faire gagner sur Radio Rythme Bleu. Il n'y a pas de jour sans jeu. Allez, on voit à présent l'agenda sport du week-end avec du rugby et la deuxième journée du tournoi Destination.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
L'Italie et le Pays de Galles qui pointent à la dernière place après la première journée s'affronteront dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sera 1h15 pour nous. Et puis à partir de 3h45, l'équipe de France sera en déplacement sur la pelouse de Twickenham pour affronter l'Angleterre, Jean-François.
Ce sera le 112e crunch de l'histoire. Les Anglais en ont remporté 60, les Bleus 44. Sept autres se sont soldés par un match nul. On connaît déjà la composition du 15 tricolore avec seulement deux changements par rapport à celui qui était victorieux contre le Pays de Galles. Mathieu Jalibert sera titulaire à l'ouverture aux côtés d'Antoine Dupont. Il remplace Romain Ntamack, suspendu après avoir reçu un carton rouge la semaine dernière. À l'aile, Damien Penaud fait son retour en lieu et place de Théo Atisogbe. Peato Maovaka est lui une nouvelle fois titulaire au poste de talonneur, tout comme Yoram Moefana au centre. Angleterre-France à Twickenham, ce sera à suivre à 3h45 dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, l'Irlande ira défier l'Écosse. Les deux équipes avaient remporté leurs premiers matchs respectivement face à l'Angleterre et à l'Italie. Les moins de 20 ans tricolores seront eux aussi en Angleterre demain matin à 7h. Les Bleuets qui sont seuls en tête du classement après la première journée.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Et venons-en au football en métropole avec la 21e journée du championnat de France de Ligue 1.
Les Nantais d'Antoine Comboiré ouvriront le bal face à Brest demain matin à 5h. Rencontre qui sera suivie d'un choc entre le PSG, leader du championnat, et Monaco, 3e. Dans la nuit de samedi à dimanche, Nice accueillera Lens, Lille recevra Le Havre et Saint-Etienne défiera Rennes. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, on aura le droit à 4 matchs. Lyon-Reims, Auxerre-Toulouse, Strasbourg-Montpellier et Angers-Marseille.
Du football aussi sur les pelouses européennes.
D'abord en Espagne avec un duel au sommet qui nous attend dimanche matin à 7h, un derby madrilène. Le Real, leader de la Liga, reçoit son dauphin l'Atlético. Le vainqueur de ce match prendra les rênes du championnat. Le Barça, 3e, pourrait revenir dans la lutte en cas de victoire sur le FC Séville et de match nul entre le Real et l'Atlético. Et puis en Angleterre, c'est un week-end de coupe avec les 16e de finale de la FA Cup.
Dans la région, le rendez-vous MMA de ce début d'année, c'est à Sydney que ça se passe.
Avec 2 combats pour le titre au programme, chez les hommes, le champion des poids moyens, Driscus du Plessis, affronte Sean Strickland. Chez les dames, dans la catégorie des moins de 52 kilos, la championne Zhang Weili défie Tatiana Suarez. Un Français est sur la carte préliminaire chez les moins de 77 kilos, Kevin Jousset. Il est opposé à l'Italien Jonathan Mikalev. Début des combats 10h dimanche matin.
En Australie toujours, on parle de karting, cette fois avec 2 jeunes Calédoniens qui sont partis ce matin pour la première course de la saison.
Luca Padovese-Robo, 14 ans, et Raphaël Gilles, 11 ans, participent en effet ce week-end à la course d'ouverture de la saison, la City of Sydney Titles. Ça se déroule sur le circuit d'Eastern Creek à environ 40 km au sud-ouest de Sydney. C'est le circuit le plus long du monde avec ses 1800 mètres et ses 32 virages. Près de 300 pilotes sont attendus pour cet événement.
Notez qu'en rugby, l'équipe U18 de rugby à 13 de Nouvelle-Calédonie est partie en tournée d'été.
Les jeunes néo-calédoniens affrontent demain les Vanuatais avant de rejoindre l'est de l'Australie pour 2 matchs face à des collègues mercredi puis vendredi prochain. Des collèges, pardon, mercredi et vendredi prochain. Des entraînements avec les clubs prestigieux sont également prévus, les Broncos de Brisbane et les Seagulls d'Hervé Bay.
Allez, collègues, on poursuit avec ce week-end les performance d'un autre Calédonien en tennis, Maxime Chazel, qui dispute le tournoi ITF M15 de Valence, c'est en Espagne.
Oui, il jouait seul et sans collègues, et il s'est brillamment qualifié hier soir pour les quarts de finale. Il a battu un Britannique, Gvetner, en 2-7, 6-3, 6-1. Tête de série numéro 2 du tournoi, Maxime Chazel sera opposé ce soir à l'Espagnol Pertusa pour une place dans le dernier carré.
Du tennis aussi en Calédonie ce week-end avec les finales des interclubs.
Dimanche, 8h30, sur les terrains de la Ligue, le Wentoro, dans la poule A de la Division 1. L'équipe Fagnon du Tennis Club Receiving sera opposée à l'équipe numéro 1 du Tennis Club Olympique. Dans la Division 2, l'équipe réserve du DC Olympique affrontera l'équipe 2 du Tennis Club du Montcoffin. Enfin, dans la Division 4, le titre reviendra quoi qu'il arrive à la 6e kilomètre puisque l'équipe Fagnon jouera contre l'équipe réserve.
En football, la préparation pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans démarre demain pour les jeunes cagoux.
Et le sélectionneur Pierre Wadjoka a convoqué 32 joueurs, un groupe élargi pour une revue d'effectifs avec l'objectif d'instaurer un fonctionnement de travail et une préparation athlétique cohérente, a-t-il déclaré. Les U20 ont rendez-vous demain au centre de la fédération de Païta. La Coupe du Monde aura lieu au Chili, on le rappelle, du 27 septembre au 19 octobre.
Et on va terminer avec du foot volley au programme demain à Point-d'Imier.
L'association Foot NC organise en effet la 2e édition des journées du foot volley. Rendez-vous sur la plage de Tiéti avec au programme 2 tournois, un pour les adultes hommes, un autre pour les jeunes de 14 à 18 ans et les femmes. 6 terrains seront installés pour cette occasion et près de 500 personnes sont attendues, joueurs comme spectateurs.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors, ce soir, pas de vigilance particulière. Cette nuit, le ciel sera très nuageux avec quelques averses sur la façade ouest et aux Loyautés. Le temps sera plus sec avec des éclaircies sur l'est malgré un ciel voilé par les nuages élevés. Le vent de sud à sud-ouest moulira progressivement à 5-10 nœuds, localement encore 15 nœuds vers Marais et l'île des Pins. Sur la côte est, le vent sera faible à l'abri de la chaîne. Les températures minimales varieront de 23 à 25 degrés, localement 21 22 degrés sur la côte ouest et l'île de Pins. Demain matin, le ciel sera souvent très nuageux à couvert. Toutefois, les averses seront rares et faibles. Quelques-unes remonteront sur le sud-ouest, d'autres aborderont la pointe nord, Bélep, le sud des Loyautés. Le vent sera faible et soufflera au secteur sud de 5 à 10 nœuds. Sur l'ouest, le sud et les Loyautés. Sur l'est, il sera variable faible.